Donc, bonjour à tous, bienvenue au Dali Lab. C'est un lieu qui est dédié à l'animation aux artistes, un lieu pour les artistes et avec les artistes, et aussi qui invite différentes autres disciplines, comme aujourd'hui la philosophie, avec un philosophe, donc Michel Guérin, qui enseigne à Aix-en-Provence et qui a écrit une trentaine d'ouvrages. Et dont on l'a invité justement pour son livre « La philosophie du geste ». Alors pourquoi cette invitation? Parce qu'en fait on a ici des résidences d'artistes avec à chaque fois une thématique. Et la thématique de cette année, c'est la Renaissance. La Renaissance, l'artiste comme un artisan, l'artiste as a worker. Revenir aux fondamentaux de l'acte du faire, du geste, d'écrire, de l'écriture, de la peinture, du dessin. Mais aussi clamer de la poésie et donner. Voilà, donc c'est à rebours de tout ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la dématérialisation massive liée aux algorithmes, revenir à cette physicalité du corps et du faire. Donc en avril prochain, on accueillera une peintre qui fait de la peinture sur bois en lien avec la peinture flamande et un céramiste. En dialogue, et on va reconstituer ici son atelier. Et donc on est ravis d'accueillir Michel Guérin, qui va nous parler de cette philosophie du geste à travers plusieurs actes, dont je vous ai dit le faire, l'écriture, la danse et le don. Donc il parle de quadrature du geste, faire, donner, écrire, danser. Et voilà, donc je remercie Michel Guérin. Là, ça va être une conférence qui va durer à peu près, je pense, 45 minutes, suivie de questions. Et après, ceux qui ont réservé pour le lunch en bas, qui sera signé par un artiste qui s'appelle Grégoire Bergeret. Voilà, merci à vous et bonne conférence.
Merci, madame.
Merci.
Je dois utiliser le micro? Ah, il est peut-être déjà réglé. Je ne vais pas m'en occuper. C'est parfait. Bien. Donc, je vais, comme ça vient d'être rappelé, vous parler effectivement du geste. Et j'essaierai de rassembler la problématique qui se trouve dans « Philosophie du geste », dont la première édition chez Actes Sud remonte à 1995 et qui d'ailleurs avait été nominé pour le prix Médicis Essai. Je veux dire que je me trouvais dans la dernière sélection du Médicis Essai et qui a été réédité par Actes Sud en 2011. Et comme je vous le disais il y a un instant en aparté, le livre qui était à peu près introuvable vient d'être retiré par Actes Sud. Donc c'est un livre relativement mince, comme vous le voyez, qui essaie de constituer, parce que je crois que ça n'a pas vraiment été fait comme tel, une philosophie du geste. Je vais revenir dans un tout petit moment sur cette notion de philosophie du geste, mais ce que j'étais en train de vous dire en préliminaire, c'était que mon propos allait rassembler le contenu, en somme, de deux livres, celui-ci qui a donc déjà une histoire, et celui qui vient de paraître, il y a quelques jours, il est en librairie depuis le 10 octobre et qui est ici d'ailleurs montré, exposé, et qui s'appelle « Le temps de l'art ». Et vous parliez, madame, des tendances actuelles, elles ont déjà quelques années, de l'art contemporain, de l'art qu'on peut appeler à tort ou à raison post-moderne, le mainstream de cet art qui est en effet fondé en grande partie sur à la fois la dématérialisation, la marchandisation et la médiatisation, et qui dit médiatisation à l'ère numérique, signifie en effet une sorte de glaçage du sensible, je veux dire un éloignement de plus en plus patent par rapport aux valeurs de la physicalité que vous mentionniez également. Donc c'est la raison pourquoi je dirai quelques mots à la fin de mon propos sur ce livre, « Le temps de l'art », dont le sous-titre est « Anthropologie de la création des modernes » et qui est une sorte de tentative de reconstituer les différentes étapes de l'idée de création à travers tous les temps modernes. Et quand je dis tous les temps modernes, je veux dire de la Renaissance, vous parliez aussi de la Renaissance, dans un autre sens peut-être, de la Renaissance à nos jours. Les époques modernes, finalement, ça commence au Quattrocento, et nous y sommes encore. La postmodernité est encore une hypermodernité, une surmodernité. Elle n'est pas simplement un après la modernité, elle est en même temps une exaspération, une exagération, une excitation supplémentaire de certains traits qui se trouvent déjà présents dans les modernités, qu'il s'agisse de la modernité dite baudelairienne vers 1850, ou qu'il s'agisse du modernisme et des avant-gardes à l'extrême fin du XIXe siècle et au commencement du XXe. Alors voilà un petit peu quel est, si vous voulez, le cadre général que mon propos va balayer. Mais, bien entendu, pour commencer, il faut répondre à la question qui m'est posée, le geste. Et pourquoi une philosophie du geste ? Alors, je disais à l'instant que, à ma connaissance, il n'y a pas de philosophie du geste. Pourquoi ? Parce que le geste a découragé un petit peu les philosophes. Il a été étudié de manière spéciale ou spécifique. Par exemple, les spécialistes de danse, de chorégraphie, ont travaillé sur le geste de danser. Ils ont travaillé sur la notation chorégraphique. Ce n'est là qu'un exemple. Mais une philosophie du geste, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est une réflexion qui porte sur le geste en tant que tel, où que ce geste se trouve, et quelle que soit sa nature. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ? J'ai ma petite idée là-dessus. Il me semble que ça n'a pas été fait parce que le geste, par sa non-nature, je vais m'expliquer là-dessus dans un instant, décourage toute constitution d'un discours. Pourquoi est-ce que je parle de non-nature ? Parce qu'il n'a pas de substance, le geste. Parce qu'on ne peut pas le fixer. Parce que par définition, on ne sait pas où il commence et où il finit. Et c'est ça qui m'a justement intéressé philosophiquement, et je dirais même métaphysiquement, dans le geste quel qu'il soit. C'est le fait que justement, il nous plonge dans ce que j'appellerais au neutre, pour ne pas faire de mysticisme des commencements. Donc le mot est neutre et il est à dessein choisi pour cela. Ce que j'appelle l'initial. Le geste, c'est l'initial. Tout commence par un geste. Et quand je dis que tout commence par un geste, je veux dire que le geste est à la fois plus que corps et moins que conscience. C'est une sorte d'intention incarnée, mais une intention qui ne se pose jamais d'abord en termes de représentation. C'est une intention qui n'est pas représentée, mais qui est jouée. Et à cet égard, dans mon travail sur le geste, j'ai un grand prédécesseur à qui je rends toujours hommage, depuis en tout cas que je l'ai rencontré, parce que je ne le connaissais pas jusqu'à une certaine époque. Et ce grand prédécesseur, c'est Marcel Jousse, qui a écrit, qui est un jésuite, qui a enseigné très longtemps à l'école des hautes études, spécialiste de l'araméen, spécialiste de la, des gestes de la parole dans l'espace, dans l'ancien espace biblique. Et Marcel Jousse a eu cette intuition que la dimension du geste ne pouvait se comprendre que si on voyait en lui le mimisme, c'est-à-dire que le geste récupère à sa façon et renvoie par une sorte de rejeu toutes les grandes forces de l'univers. Il y a une dimension cosmique du geste. Dimension cosmique, je le dis tout de suite, qu'on retrouvera dans la danse. Tout geste est cosmique, en ce sens qu'il n'y a pas de gratuité du geste. Ou si vous voulez, cette gratuité est une gratuité supérieure. Le geste s'accorde avec le cosmos, il s'accorde avec le tout. Il est une certaine façon de rejouer dans le corps et par le corps un certain nombre de grandes forces, de grandes tendances, de grands mouvements qui se situent un peu partout dans l'univers. Sans vouloir d'ailleurs épouser, bien entendu, les considérations théologiques que Marcel Jousse, en bon jésuite qu'il est, peut en tirer. Mais ce qui me paraît extrêmement intéressant dans ce que dit Jousse, c'est cette dimension de mimisme. Et quand je dis mimisme, je ne dis pas mimétisme. Vous voyez bien la différence. Car le mimétisme suppose la représentation, suppose une analogie préalable. Par exemple, quelqu'un qui copie un tableau, il est dans le mimétisme. Mais lorsque l'inventeur du sous-marin a tout à coup l'intuition de cet objet et de son mode de propulsion et de sa forme aérodynamique, il n'est pas d'abord dans la représentation. Il a déjà, dans ses viscères, si je puis dire, dans le cœur et dans l'âme, il a déjà cette idée que le sous-marin, c'est une sorte de poisson, de même que l'avion est une sorte d'oiseau. Donc c'est ça le mimisme, n'est-ce pas ? C'est d'essayer de... Pas d'essayer d'ailleurs, parce qu'on n'essaie pas, c'est spontané, à la différence du mimétisme. Le mimisme, c'est ce que Marcel Jouve appelle le rejeu, c'est-à-dire la reconstitution spontanée par le corps, par des éléments à la fois dynamiques et physiologiques, la reconstitution de ces grandes forces et de ces grands mouvements ont lieu dans le cosmos. Donc je voulais rendre hommage une fois de plus à Marcel Jouve, mais je dois dire en toute franchise que lorsque j'ai élaboré dans les années 1990 la philosophie du geste, je ne connaissais pas Marcel Jouve, que je n'ai rencontré qu'en 2012, et j'en ai beaucoup parlé dans un livre que je veux aussi citer. C'est un livre paru dans le cadre d'éditions universitaires, qui est « Le geste entre apparence et émergence », qui a été publié aux presses universitaires de Provence, qui est un ouvrage collectif qui aborde des questions éthologiques, des questions esthétiques, des questions philosophiques autour du geste, entre émergence et apparence. C'est un livre collectif que j'ai dirigé. Quand je dis d'ailleurs entre émergence et apparence, je retrouve mon idée d'initiale. Le geste, c'est ce qui vient tout à coup au paraître. Quelqu'un qui a un geste de tendresse, vous ne savez pas très bien en quoi il consiste ce geste. Vous le ressentez, vous ne vous y trompez pas, c'est un geste de tendresse. Vous n'allez pas le prendre pour un geste d'indifférence ou pour un geste de haine. Et cependant, il est très difficile à fixer, parce que justement, il est l'initial. Il est émergent, il émerge dans le paraître. Et finalement, c'est ça qui est peut-être très beau dans le geste et qui fait la très haute dignité de l'art et en même temps sa vulnérabilité. C'est cette émergence dans l'ordre du paraître, s'il est vrai que tout ce qui paraît a vocation de disparaître. Donc il y a une fragilité, il y a une précarité du geste qui tient au fait que tout ce qui commence, tout ce qui est de l'ordre de l'initial, eh bien, est voué évidemment aussi à disparaître. Donc cette sorte de mariage, si vous voulez, qui fait originairement le geste entre l'émergence et l'apparence. Or, ce lien profond entre l'émergence et l'apparence, les premiers philosophes grecs l'ont pensé, et ils l'ont pensé comme rhythmos. Alors nous, on traduit ça aujourd'hui par rythme, mais rhythmos, en grec, ça veut d'abord dire la silhouette, ça veut d'abord dire la figure. La figure en tant qu'elle est en train de sortir de l'indifférencié, c'est-à-dire de l'arithmiston. L'arithmiston, c'est le contraire, aprivatif. L'arithmiston, c'est ce qui est sans forme, c'est ce qui est sans figure, c'est ce qui est ce fond obscur et indifférencié qui est la ressource, en même temps, de toute forme. Toute forme naît de l'arithmiston. Tout rhythmos est une émergence de figure à partir de ce fond nocturne que les pré-socratiques et particulièrement Antiphon appelaient justement l'arithmiston. Eh bien, je crois que tout geste, de ce point de vue-là, est à la fois, et ce sera le premier trait par lequel je conclurai cette introduction, tout geste est à la fois, en tant que rhythmos, l'initial, et en même temps, une flexion, une courbure, une allure, un allant, qui est non pareil, qui est d'une parfaite singularité. Le poète qui m'a le plus aidé à penser tout ça, c'est Rainer Maria Rilke, avec cette notion de figure, et avec justement cette notion de Schwung en allemand, l'allant, l'élan qu'il associe à la figure. Et il me plaît beaucoup de noter qu'une des danses les plus importantes qui ait jamais existé sur le plan de ces retentissements sémantiques, c'est le swing. C'est-à-dire que ce geste de balancer, ce geste d'osciller, ce geste de sortir, encore une fois, de la fixité, de sortir de l'amorphe pour devenir justement figure libre, pour devenir figure vivante. Le rythmos, c'est une figure vivante. C'est une figure qui s'initie elle-même dans sa propre flexion. Et pour prendre un mot qui m'est cher, dans son propre tour. Chaque geste est un tour. Et ce tour est absolument singulier. Il n'a pas de semblable. Après avoir dit ça, je vais dire exactement le contraire, apparemment. Parce que les gestes sont aussi génériques. Le geste est à la fois, et c'est là tout le paradoxe du geste, et l'interrogation métaphysique qu'il suscite, et même l'énigme métaphysique qu'il représente, c'est qu'un geste est absolument individuel par un certain côté, mais en même temps il rappelle tous les autres. Et à cet égard, les parents qui s'extasient devant leur nouveau-né en disant « Ah, regardez comme il est beau, on n'a jamais vu un enfant aussi beau », ils ne le disent pas, mais ils le pensent fondamentalement. Or, cet enfant qui ressemble à son père, à sa mère, à son grand-père, à sa tante, etc., ne ressemble bien entendu par certains côtés qu'à lui-même, parce que c'est un individu. Le geste, c'est l'individuation. Le geste, c'est ce par quoi l'individuel se montre, qu'il s'agisse d'être vivant, physique, humain, ou qu'il s'agisse d'être d'entité. Une œuvre d'art est un geste. Il y a un geste d'une œuvre. Tout à l'heure, je le montrerai, j'essaierai. Il y a une gestualité de telle ou telle œuvre d'art. Donc, le geste, c'est l'individuel. Mais en même temps, le geste, c'est le contraire de l'individuel. C'est le générique. C'est-à-dire que l'enfant ressemble à ses parents, et pour cause, parce qu'il en a les gènes. Donc, le geste est à la fois l'initial et l'immémorial, à la fois l'individuel et le fréquentatif, à la fois l'incoatif et ce qui se répète, à la fois la spontanéité et l'habitude. Donc, c'est ça qui m'a intéressé dans le geste, c'est cette dualité. Parce que si le geste est un tour parfaitement individuel, ce tour a vocation à faire retour. Et la manière dont le geste fait retour, c'est ce par quoi l'acte s'inscrit dans une forme et ce par quoi l'acte aussi s'inscrit dans un ordre. Je vais prendre un exemple simple, pour aller vite, la technique. Le forgeron ou le menuisier qui se sert du marteau, qui utilise toute la gamme des percussions, puisque la technique, c'est en réalité la percussion, toutes les formes de percussion, qu'elles soient gestuelles ou qu'elles passent par la machine. L'artisan qui se sert du marteau à la fois utilise spontanément un tour qui est la frappe ou la percée. Tout primate, pas seulement l'homme, tout primate, c'est d'instinct ce qu'il en est que de taper, ou bien que d'essayer de faire un trou, ou bien d'essayer de fouir, d'essayer de creuser. Tout ça, c'est la percussion. Tout primate, c'est d'instinct ce que c'est, il le fait. Mais le problème, c'est que chez l'artisan, il y a quelque chose de plus, c'est qu'il est capable de relayer ce geste, de relayer cette frappe, de la gérer. Et c'est là où on passe de la spontanéité du geste percussif à la gestion de la frappe. Et la gestion des frappes et des percements, ça s'appelle la techné, ça s'appelle la technique. Et qu'est-ce que c'est que la technique ? La technique, c'est la subrogation prothétique du geste par un outil. Autrement dit, comme le disaient déjà les Grecs, l'outil prolonge l'organe. Dès l'instant que la main se prolonge par un manche pourvu au bout d'une masse de pierre ou de métal faisant levier, vous avez effectivement le principe du marteau. Et il n'y a pas un outil plus fondamental dans toutes les techniques et dans toutes les civilisations que le marteau. Mais vous voyez le passage du tour au retour, le passage de la spontanéité à la gestion. Donc ma grande idée, si vous voulez, là-dessus, c'est que tout geste ouvre un domaine par sa capacité qui lui est propre de faire retour, par sa capacité de passer de l'initial au final, de l'incoatif au fréquentatif, de la spontanéité à la gestion. Le geste a finalement vocation à être géré. Alors bien entendu, plus il est géré et plus il est commun. Plus les gestes entrent dans un ordre de gestion, quel que soit le domaine, et plus ils se ressemblent. Le geste d'échanger, au début, on peut imaginer que les individus ont des manières d'échanger qui leur sont propres. Mais très très vite, on s'aperçoit que les échanges deviennent quelque chose de systématique, au milieu de quoi, au sein de quoi, toutes les manières d'échanger finissent par être quasiment les mêmes, ou en tout cas tellement semblables que la particularité passe au second plan. Donc ça, c'est la première grande idée que je voudrais que vous reteniez là-dessus. Le geste, premièrement, c'est un rythme, c'est-à-dire c'est quelque chose d'initial, c'est un tour, c'est une flexion, c'est une courbure, c'est une figure, c'est quelque chose qui sort de l'indifférencié. Deuxième idée et corollaire, le geste en passant de l'émergence à l'apparence, donc du sortir de l'indifférencié au paraître, le geste montre deux traits à la fois oppositifs et complémentaires, l'initial et le final, la spontanéité et la gestion, le tour et le retour. Alors maintenant, je voudrais vous montrer que on peut parler bien sûr indéfiniment de tous les gestes, mais comme on ne peut pas le faire, il faut bien se dire qu'il doit y avoir quelques gestes qui sont un peu plus importants que les autres. Et c'est mon idée, justement, que vous citiez, madame, de quadrature du geste ou encore de gestique transcendantale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai cru pouvoir repérer quatre gestes qui ont comme particularité, à la différence de la multitude des gestes empiriques que nous, les uns et les autres que nous faisons tous les jours, qui ont cette particularité qu'ils sont en quelque sorte foncteurs d'un ordre. Ils donnent naissance à un ordre, à un domaine, si vous voulez. Alors, j'ai parlé d'ailleurs déjà brièvement à titre d'exemple, et je le reprends brièvement, de la technique, c'est-à-dire l'ordre du faire, poiein, poiesis, hein, le faire. Le faire, c'est le geste conséquent par excellence. C'est le geste qui entraîne toujours plus, indéfiniment, d'autres gestes qui vont le compléter. Et c'est pour ça qu'il y a un progrès technique. Alors, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est relativement bien connu, mais en même temps, il y aurait beaucoup à dire sur cette notion d'enchaînement du geste technique, sur cette notion de polytechnique, sur cette notion de tendance logique de la technique, telle que le roi Gourand a pu l'analyser, notamment dans le geste et la parole. Dès l'instant qu'un geste technique voit le jour, il a tendance à faire alliance avec d'autres gestes qui sont à la fois semblables à lui et opposés à lui, opposés au sens linguistique du terme, au sens systémique, non pas polémiquement, mais en ce sens qu'ils sont des opposés complémentaires. Le geste de frapper est d'une certaine façon semblable et opposé au geste de percer, par exemple. Une civilisation technique, une culture technique qui a la roue peut aussi avoir le rouet, mais n'a pas d'autres outils qui sont incompatibles avec le système technique qui est en train de se former. Donc vous voyez, l'enchaînement du geste technique tel qu'il devient géré et tel qu'il produit des actes performants, cet enchaînement est très semblable au langage. C'est-à-dire que vous avez une structure qui est faite de termes qui sont à la fois les uns semblables, les autres opposés. Et c'est le groupement de ces termes qui constitue la technique en logique, en progrès technique. Et cette logique, elle est destinée à devenir, par recours à un autre ordre de gestes dont nous allons parler tout à l'heure, le langage, elle est destinée à devenir une technologie. La technologie, ce n'est pas la technique. Ce n'est même pas simplement le progrès technique. C'est une mutation d'ordre. La technique, c'est la transformation de la matière. La technologie, c'est l'utilisation de l'information, c'est l'utilisation des appareils pour opérer cette transformation. Jusqu'à la machine, on est dans la technique. À partir de l'appareil, on est dans la technologie. C'est-à-dire que l'appareil fonctionne sur l'information et non sur la transformation matérielle. Ce sont deux ordres, même si le second est, en quelque sorte, le haut de fusée, le dernier étage de la fusée, du domaine général des techniques. Mais il n'a pu se développer comme tel qu'à partir du moment où, pour reprendre encore le roi Gourand, le geste et la parole se sont mis à converger, c'est-à-dire à partir du moment où le progrès technique et le progrès des langages, le progrès, je dirais, de l'information comme telle, de ce que Jack Goody appelle les technologies intellectuelles, c'est-à-dire le fait de discrétiser la réalité pour la traduire en symbole et en algorithme, c'est à partir du moment où ces deux tendances se sont croisées, alors qu'elles étaient, pendant la plus longue histoire de l'humanité, seulement parallèles, qu'on a vu apparaître quelque chose comme la technologie, qui est le monde aujourd'hui qui nous entoure. Donc le faire, la logique du faire, c'est l'enchaînement, c'est le système, c'est le progrès technique. Deuxième geste inducteur d'un domaine anthropologique considérable de portée, donner. Donner, c'est un geste, autant le geste de faire est un geste conséquent, autant le geste de donner est un geste paradoxal de la part d'un primate, de la part d'un mammifère. Vous imaginez, le geste presque le plus biologique, le plus viscéral vis-à-vis du milieu de l'animal, c'est d'attraper, c'est de se saisir de la proie, par exemple, par l'orifice et de le faire passer en lui. Or, le don, ça consiste non pas à prendre, mais à se déprendre, exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de ramener l'objet ou la chose vers moi, je la glisse, je la fais passer du côté d'autrui, pour qu'autrui s'en empare à son tour. Et ce faisant, je l'appelle, cet homme que j'ai ou cette femme que j'ai en face de moi, je les appelle à me rendre, non pas ce que je leur donne, mais l'équivalent, ou si possible, mieux que l'équivalent. Me rendre un bien, un don, avec en chair. C'est le fameux thème du potlatch, si admirablement utilisé par Marcel Mauss. Mais en vérité, lorsque Georges Duby, par exemple, dans « Guerriers et paysans », analyse l'économie médiévale du XIe, XIIe siècle, il montre bien que cette économie elle commence dans le don et dans leur aide. C'est-à-dire ces deux façons, l'une violente, l'autre pacifique, de créer des échanges. C'est triste à dire, mais l'activité humaine qui a le plus créé d'échanges sur toute l'histoire de l'humanité, c'est la guerre. C'est leur aide. La seconde étant le don. Mais le don comporte aussi une violence, puisqu'il met autrui sous pression. Il l'oblige, c'est une obligation, selon les termes de Marcel Mauss, obligation de rendre le présent reçu, et qui plus est, avec intérêt. Donc ce geste paradoxal, apparemment gratuit, quand on dit que donner, c'est, c'est un acte désintéressé. Oui et non. C'est un acte aujourd'hui apparemment désintéressé, mais c'est un acte éminemment motivé, puisque sans lui, il n'y aurait aucun échange entre les êtres, ni économique, ni matrimonial, ni linguistique. Donc le don est à l'origine de tous les échanges sociaux et sémantiques entre les êtres. C'est donc assez dire à quel point il ouvre un champ, un domaine à part, et un domaine de grande portée. Troisièmement, le geste d'écrire. J'ai choisi le geste d'écrire. Pourquoi ? Parce que le geste d'écrire, lui, est un geste inversé. Je veux dire que le geste technique standard, c'est de transformer la matière en lui faisant supporter un changement de forme. Le geste d'écrire creuse, graphène, incise, écorche une surface pour, non pas y mettre des formes à demeure, comme le fait par exemple la peinture, qui est une zoographie et non pas une orthographie. Comme si, à l'origine, il y avait en quelque sorte un tronc commun à partir de quoi deux graphismes allaient diverger. Un graphisme consistant à laisser à la matière le bénéfice des formes, c'est la peinture, c'est le dessin. C'est ce que les Grecs appellent la zoographie. En grec, zoographia. La zoographia, ça veut dire la peinture en grec. Et étymologiquement, ça veut dire la graphie de ce qui est vivant. Vous trouvez ça encore dans la fameuse définition de la peinture de Nicolas Poussin dans sa fameuse lettre à Chanteloup depuis Rome, où il définit la peinture représentée en quelques superficies par des lignes et des couleurs, je cite, « tout ce qui se voit dessous le soleil ». Or, tout ce qui se voit dessous le soleil, c'est ce que les Grecs appellent le zoon, c'est-à-dire le vivant. Donc, le paradoxe de la peinture, c'est que c'est une zoographie, c'est un graphisme du vivant, mais ce graphisme du vivant, il passe par un moyen, là encore paradoxal, qui est la mortification. Cette mortification que vous trouvez notamment dans le portrait, ou dans l'effigie. Le portrait, c'est le portrait du mort. Donc, ce qui affole Fraenhofer dans le chef-d'œuvre absolu, dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, n'est pas ce qui affole Fraenhofer, c'est cette espèce de vertige, cette confusion qui existe dans les gènes même de la zoographia entre la vie et la mort. La zoographia se définit de la vie, mais elle s'exécute de la mort. Elle est une mortification. Donc d'un côté, il y a ce graphe qui consiste à laisser en otage les formes dans l'immanence du fond, qu'il s'agisse de peinture et de dessin, même si on peut faire de grandes différences par après entre les deux, et l'autre graphe qui s'est appelé justement l'orthographe, et qui n'est pas simplement une affaire orthographique au sens actuel du terme, l'autre forme qui consiste à inscrire des formes dans la matière, mais de telle façon que ces formes sont renvoyées par l'effet de la lecture à celui qui, les levant, les ôtant de la matière, les convertit en forme mentale. Donc la forme de l'écrit utilise le visible au profit du lisible. Et là je vais même piller à mon avis une des plus grandes spécialistes de l'écriture qui est Anne-Marie Christin, qui montre bien que le visible nous met dans l'éblouissement. Le visible est de l'ordre de la révélation, c'est-à-dire qu'il est éblouissement spectaculaire, alors que le lisible, au contraire, lui, est aussi de l'ordre de la révélation, mais une révélation qui est complètement parasitée par la référence, c'est-à-dire par quelque chose qui n'est pas dans le visible. Le lisible suppose la référence, c'est-à-dire suppose d'une certaine façon une déstabilisation du visible. Le visible n'est qu'une étape, n'est qu'une marche pour parvenir justement à rendre les formes mentales. Et c'est le propre de la lecture. Donc, si vous voulez, je résume. L'écriture est un geste inversé. Le geste technique normal, c'est de transformer la matière, c'est-à-dire de donner une forme à cette matière, et ensuite elles restent l'une à l'autre liées. L'écriture consiste au contraire à utiliser la matière comme un écran, comme un tremplin, comme un renvoi, de telle manière que les formes se libèrent. Nous sommes dans la transcendance de la référence, et non pas dans l'immanence du fond. Au début, selon le roi Gourand encore, on peut imaginer, à travers ce qu'il appelle les mythogrammes, on peut imaginer que les deux manières de communiquer, l'une rayonnante et rayonnante et immanente, l'autre transcendante et linéaire, ont pu voisiner. Et que, par conséquent, l'écriture, ce qui allait devenir l'écriture, qui finalement est une invention très jeune, elle remonte seulement au troisième millénaire, alors que l'écriture, entre guillemets, mythographique, c'est-à-dire le recours à des dessins, à des abstractions, à des formes esquissées, etc., lui, remonte au paléolithique. Mais si on peut, encore une fois, faire l'hypothèse qu'au départ, les deux manières de communiquer, l'une, encore une fois, constellante, rayonnante, utilisant toutes les formes d'expression, l'autre, au contraire, simplifiée, linéaire, intellectualisée, alphabétisée, etc., l'écriture, qui va donner, tout simplement, l'algorithme, hein, l'ère numérique, eh bien, on peut imaginer qu'au début, elles étaient liées, mais que, de ce tronc commun, elles ont, à un certain moment, divergé, ça s'est passé à partir du début des civilisations mésopotamiennes et chinoises. Donc l'écriture est un geste inversé par rapport à la technique qui consiste à créer des formes mentales. Les créer pourquoi ? Pour un autre acte qui est le renversement du premier et qui est la lecture. Qu'est-ce que c'est que la lecture ? La lecture, ça consiste à lever les signes au fur et à mesure pour se les approprier mentalement. C'est-à-dire que la lecture, c'est l'acte définitif de libération du signe par rapport au support. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que justement, les spécialistes aujourd'hui n'ont de cesse de montrer comment ce qui caractérise l'ère numérique, c'est justement à travers la capacité de se libérer par rapport à tout support, d'affranchir la communication et l'information de toute base matérielle. Au fond, l'information est voyage. Elle est de l'ordre du flux. On ne sait pas où elle est. On ne sait jamais où elle est. On peut bien entendu la fixer, mais on sait très bien que cette fixation ne sera qu'un moment et que ce moment est inessentiel. Ce qui est essentiel, c'est justement cette libération de l'information par rapport au support. C'est la dématérialisation. Or, plus on va dans l'histoire de l'écriture, dans l'histoire des écritures, et plus, en effet, notamment à travers la lecture, on s'aperçoit que les formes mentales, eh bien, sont, au bout du compte, séparables de la surface sur laquelle, matérielle, sur laquelle elles étaient inscrites. Donc, l'écriture, troisième geste fondamental pour moi, qui est, je dirais pour simplifier, le geste même de la civilisation. Les civilisations sont toutes fondées sur l'écriture. On passe de la culture à la civilisation, si vous voulez on y reviendra, mais je ne veux pas trop mettre d'entrée de jeu de petites niches dans mon propos. On passe de la culture à la civilisation par le moyen de l'écriture. Quatrième geste, danser. Danser. Quel est le tour de la danse? Le tour de la danse, c'est le retour. C'est-à-dire, c'est la volte. C'est-à-dire, c'est l'indéfinition du geste. Dans une de ses magnifiques intuitions dont il a le secret, Valéry, dans ses cahiers, vous savez qu'il a par ailleurs écrit un dialogue magnifique sur la danse, dans ses cahiers, Valéry dit que la danse ne finit pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien entendu, quand je vais à un spectacle de danse, je rentre au théâtre à 8h15, je sais que je vais en sortir à 9h30. Donc elle finit. Mais entendons-nous, lorsque Valéry dit que la danse ne finit pas, je veux dire que le principe de la volte, c'est justement le da capo. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin. La danse lie le commencement et la fin. Et c'est pour ça qu'elle est, à mon avis, paradigme de tout geste. Il n'y a pas un geste sans doute plus pur que le geste de danser. Non seulement parce qu'on le trouve déjà chez les animaux, notamment chez les jeunes animaux, cette espèce de jouissance de la sensation comme telle, de libération par rapport à la nécessité vitale, comme parle Valéry dans une conférence qu'il a donnée en 1937 sur la danse. La danse nous libère par rapport à l'activité utile, par rapport au métier de vivre. La danse est un plus. Elle est une jouissance surérogatoire. Elle est finalement le fait que l'animal découvre son corps, notamment le jeune animal, et il le découvre dans le mouvement. Mais un mouvement qui ne va nulle part, qui n'a pas de but. Or, c'est ça qui est magnifique dans la danse, c'est que à la fois ça peut être l'art le plus élaboré, le plus noté, le plus chorégraphié, et en même temps, c'est un art qui prend sa source dans le plus naturel du geste. Le geste, au fond, de se découvrir soi-même comme corps. C'est ça, la danse. C'est pour ça que dans la danse, il y a à la fois le tour et le retour. Il y a la volte et le retour de la volte. Il y a le da capo indéfini. On pourrait danser indéfiniment. Il y a une joie de la danse. La joie, au fond, c'est le sentiment de l'être. C'est le sentiment du mouvement. J'allais dire du mouvement perpétuel. Là, si vous ne le connaissez pas, ce texte, je vous suggère vraiment de lire ce magnifique dialogue poétique de Paul Valéry qui s'appelle « L'âme et la danse ». Et dans la danse, justement, j'ai tenu à mettre en évidence deux traits, deux caractères qui me paraissent définitoires, ou en tout cas très importants. Le premier, c'est ce que j'appelle l'arc pied-main. Ce par quoi je retrouverai un propos tout à l'heure mentionné, c'est-à-dire le caractère cosmique du geste. La danse, ce n'est pas une lévitation. La danse, ce n'est pas de s'élever dans les airs. La danse, c'est de se piéter ô combien sur la terre, sur le sol, pour faire advenir un saut, pour faire advenir un swing, un schwung, un élan. Donc la danse travaille à la fois avec les membres extrêmes, avec les pieds, avec les mains. Et ce que les pieds font, les mains y font écho. C'est ça que j'appelle l'arc pied-main. La danse fait une sorte de rapport entre l'horizontal et le vertical. Elle fait un rapport, pour être plus dans un symbolique peut-être un peu outrancier, entre le chtonien et l'ouranien, entre le poids et la légèreté. Donc la danse a une dimension cosmique. Elle est par le corps en mouvement, cette faculté, cette capacité de traduire un univers, de donner les coordonnées générales d'un cosmos. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le deuxième trait qui m'a paru devoir être mis en exergue de la danse, c'est ce que j'ai appelé les deux corps de la danse. Évidemment, les deux corps de la danse, je me suis inspiré par analogie des deux corps du roi de Ernst Kantorowicz. Lorsque un roi meurt, la formule sacramentelle dans la monarchie anglaise, dans la monarchie française, c'est « le roi se meurt, le roi est mort, vive le roi ». Un roi est mort, mais la royauté continue. Donc « vive le roi », ça veut dire « vive le nouveau roi », »,« vive la royauté qui est dans le roi ». Donc il y a deux corps qui se relaient, qui sont à la fois opposés, différents, et qui se relaient. Ben, la danse, c'est pareil, il y a deux corps. S'il n'y avait qu'un corps de la danse, on ne voit pas comment la danse pourrait se séparer de la marche. Parce qu'il faut deux corps à la danse. Il faut le corps qui se déplace dans l'espace, une sorte de corps physique et géométrique, une sorte de corps foronomique, comme disaient les anciens philosophes, une sorte de corps du déplacement dans l'espace, comme dirait Aristote, hein, une kinésis, un mouvement dans l'espace, et en même temps un corps qui est tout métabolé, qui est tout changement intérieur, un corps qui vire sur lui-même, un corps qui découvre la joie et la jouissance. Alors là-dessus, vous avez une abondance de textes, à commencer par les textes de Nietzsche, dans lesquels, justement, Nietzsche rapproche la joie, l'exubérance, l'exaltation, le ravissement de l'acte de danser, du geste de danser. La danse nous transporte. Vous voyez, il y a deux transports, et il faut deux corps pour ça. Il y a le transport du facteur, c'est-à-dire se déplacer dans l'espace, il faut bouger, il faut aller d'un point à un autre. Ça, c'est spectaculaire, c'est ce qu'on voit. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne voit pas mais qu'on appréhende, ce qu'on ne voit pas mais qu'on sent, qui est le mouvement intérieur, qui est cette sorte de transport, de ravissement, de joie, d'élévation que vous sentez dans un corps dansant. Un corps dansant, vous savez, la danse est ce qui se loge dans les intervalles de la marche. Mais si avec la marche, il n'y aurait pas de danse. Il faut les deux corps du roi. Évidemment, ce sont des métaphores, mais des métaphores qui sont très proches quand même d'une réalité physiologique et je dirais même psychophysiologique. La danse nous parle parce qu'elle nous entraîne dans la danse, c'est le cas de le dire, par le biais de cet arc pied-main, de cette relation fondamentale entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel, d'une part, et d'autre part, par ce relais incessant des deux corps de la danse. La danse qui marche, la danse qui se déplace dans l'espace que je vois les pas, je compte les pas, je vois le périmètre de la scène, et en même temps je sens l'autre corps qui a besoin lui aussi d'être relayé par le déplacement, qui est un déplacement intérieur, la danse vous donne le sentiment en même temps de l'espace et du temps. Je dirais le sentiment du temps. C'est pas un hasard, et il faudrait beaucoup de temps pour en parler, c'est pas un hasard si un des traits les plus significatifs d'une époque, me semble-t-il, c'est la danse qui a été la sienne. Et c'est d'autant plus vrai dans les époques modernes. On n'imagine pas la valse, on n'imagine pas l'apogée de la valse ailleurs que dans les grandes cours impériales et royales du XVIIIe et XIXe siècle. De même que le charleston et le swing sont des danses modernistes, de même que le hip-hop est bien une danse de notre époque, de même que le rock a bien été la danse des années 50-60, etc., etc. Parce que la danse traduit immédiatement, sans avoir besoin de signes alphabétiques, sans avoir besoin de signification dénotative, la danse traduit immédiatement ce tour général de l'époque. Elle traduit ses rythmes. Et là, je ne peux pas encore m'empêcher de revenir à Le Roi Gourand dans des textes malheureusement assez difficilement trouvables, parce qu'ils ont été édités dans des revues à l'époque et n'ont jamais été réédités en livre, lorsque Le Roi Gourand s'interroge sur l'origine de l'esthétique. Et il fait lui aussi une part énorme à la danse. Il s'interroge sur l'origine de l'esthétique et il se demande s'il n'y a pas une origine viscérale et animale de l'esthétique. Autrement dit, si les animaux supérieurs ne sont pas déjà sensibles à des valeurs esthétiques comme telles, c'est-à-dire des valeurs qui n'ont d'autre but qu'elles-mêmes, qui n'ont d'autre réalité que la jouissance de ce qu'elles sont, c'est-à-dire le fait de s'attarder avec plaisir dans la perception, pour reprendre une formule de Valéry. Or, Le Roi Gourand indique que chez les animaux supérieurs, il y a déjà indéniablement des comportements esthétiques. Il y a déjà des conduites esthétiques. Pas seulement parce que il y a du jeu chez le jeune animal, mais parce que on peut repérer assez facilement quatre ensembles de valeurs esthétiques. La première, c'est la perception de la forme et du mouvement. Le plaisir, la jouissance qu'on a, que l'animal même supérieur, l'animal supérieur peut avoir, même s'il ne le réfléchit pas, même s'il ne le cérébralise pas, la jouissance qu'il peut avoir dans la perception de la forme et du mouvement pour eux-mêmes. Et ce qui caractérise d'abord la différence de l'homme avec l'animal, c'est que chez l'homme, il peut y avoir une perception de la forme indépendante du mouvement et réciproquement. L'animal, lui, perçoit la forme et le mouvement, uno tenore, d'un seul coup. Donc la perception de la forme et du mouvement. Deuxièmement, le plaisir pris à la symétrie. Les animaux supérieurs sont fondés sur la symétrie, du moins sur la symétrie axiale ou bilatérale. Des animaux très primitifs, par exemple les mollusques, les méduses, etc., sont fondés sur une autre symétrie, sur une symétrie radiale qui fait que le corps tourne sur lui-même dans tous les sens, il ne se déplace pas, il tourne sur lui-même. Bon, il n'y a pas vraiment de symétrie. Cette symétrie radiale, c'est une fausse symétrie. La symétrie, c'est vraiment la symétrie axiale, c'est-à-dire la division par deux, c'est-à-dire le fait que la gauche et la droite sont à la fois différents et semblables. Or, effectivement, les valeurs de symétrie sont traditionnellement des valeurs esthétiques. Si vous prenez les textes médiévaux là-dessus, hein, ou des textes plus anciens encore, renvoyant à l'Antiquité, et Jacquet verra bien de quoi je parle, puisque c'est grâce à toi que j'avais lu Jacques Pillot, dans L'art et le vivant, il montre bien effectivement que la symétrie, la symétria des Grecs, est à la fois quelque chose qui renvoie à l'esthétique et qui renvoie à la médecine. Et la médecine, pas seulement à la pathologie dans la médecine, ou à la clinique, mais à la médecine comme théorie du corps. Donc c'est extrêmement important cet aspect-là des choses. La symétrie, la perception et la jouissance de tout ce qui se donne comme symétrie. Dans l'art, pas dans l'art, mais dans les textes esthétiques du Moyen-Âge et même du très ancien Moyen-Âge, jusqu'à Rabban de Mort, au IXe siècle, après Jésus-Christ, ou même Cassiodore, on trouve comme ça toute une théorie de ce que doit être un opus. On appelle ça l'opus decens, c'est-à-dire l'œuvre qui convient. Et l'opus decens, qui doit à la fois plaire et être utile, délectare et prodesse, l'opus decens a comme principe premier au Moyen-Âge, la symétria, la symétrie, c'est-à-dire les proportions. Il faut que tout soit en proportion. Ça, c'est le deuxième trait que, selon Le Roi Gourand, qui existe déjà selon Le Roi Gourand, dans ce qu'on pourrait appeler une esthétique embryonnaire, et l'esthétique embryonnaire, elle existe déjà chez les primates, chez les animaux supérieurs. Troisième trait, la perception des rythmes. Qu'est-ce que serait l'art sans rythme ? Or, la danse est pourvoyeuse de rythme. La danse nous enseigne le rythme, par définition. De ce point de vue-là, la danse est ouverte sur la musique et sur la peinture, sur le spectacle. Tout n'est que rythme dans la danse. Rythme, c'est-à-dire répétition, mais c'est aussi fréquence, c'est aussi asymétrie, dissonance. Tout ce qui fait qu'il y a un continuum et que ce continuum n'est perceptible comme tel que par les ruptures, que par les hiatus qu'on y introduit. Donc, le rythme, je n'ai pas le temps d'y insister plus, mais c'est une affaire évidemment très importante. Et enfin, un dernier point, mais là qui n'est pas strictement lié à la perception et à la biologie, parce qu'il s'agit de réalités physiques transversales, également au monde minéral, les intensités. Le quatrième volet, en quelque sorte, de ces valeurs esthétiques, c'est la sensibilité aux intensités, au plus, au moins, au grêle, au bas, au haut, au bas, etc., etc. Au bas, c'est au, et aux aigus. Tout ce qui fait qu'on monte ou on descend, tout ce qui fait que ça s'ajoute au rythme pour donner, justement, toute cette valeur à la perception. Au fond, on ne perçoit que ce qui s'oppose. On ne perçoit que ce qui fait relief. Et donc, tout le problème, c'est de créer des formes, c'est-à-dire du relief. Donc, vous voyez, ce pourquoi la danse est peut-être, selon le roi Gourand, et comme aussi je le pense, ce pourquoi la danse est peut-être le paradigme de tout art, et ce pourquoi il y a sans doute de la danse dans tout art, ou sinon de la danse réelle, du moins un danser dans tout art, c'est que la danse est justement cet art à la fois sauvage et cultivé, primitif et éminemment élaboré, art dans lequel vous trouvez réunies toutes ces valeurs esthétiques, quasiment à l'état entre guillemets naturel, comme des pépites. Et c'est pour ça que je fais l'hypothèse que dans tous les autres arts, il y a ce mouvement d'origine, cet impétus, cette impulsion, ce schwung, cet élan, comme dit Rilke, de la figure. Cet élan figuratif qui n'est pas le fait de recopier la réalité. Le figuratif, c'est imbécile. Moi, je parle de la figuration. Je parle de la figure au sens où Rilke l'entend, c'est-à-dire ce rythme fondamental, cette émergence à partir de l'obscur, à partir du non-différencié, cette émergence, ce tour que prend une forme et qui ne la fixe pas. Une figure, ce n'est pas une morphée. La morphologie, c'est quelque chose de fixé, qu'on peut dessiner, qu'on peut déliner plutôt, parce que le dessin, c'est bien autre chose que ça, qu'on peut déliner, dont on peut voir le contour, qu'on peut anatomiser. Ça, c'est la morphée. Alors que la figure, du moins au sens où l'entend Rilke, la figure, c'est le rythmos grec, c'est cette émergence du paraître dans un mouvement, dans un tour singulier et non pareil. Eh bien, il me semble que l'art qui, par excellence, montre cela, c'est justement la danse. La danse s'enseigne dans tout art. Et finalement, quand vous lisez certains textes d'artistes, vous vous apercevez que très souvent, dans les métaphores et dans les images choisies, il y a un recours au danser. Il y a un recours au danser pour désigner une sorte d'inspiration première qui n'est ni de l'ordre de la cognition, ni de l'ordre de l'intention déclarée et par conséquent bien formulée, ni de l'ordre, comment dirais-je, du matériau choisi ou du médium, mais qui traverse tout cela et qui est justement à la fois du corps et du mouvement. Et ce corps en mouvement, dans sa forme supérieure, ça s'appelle un danser. Je crois que l'initial de tout geste créateur, quel qu'il soit, pas seulement la danse au sens de la chorégraphie, le point de départ de tout geste créateur, c'est cette génialité du corps que vous trouvez justement dans la danse. Alors, je ne voudrais pas dépasser le temps de parole, parce que je crois que j'ai déjà dépassé, non ?
Un peu.
Bon. Alors écoutez, je vais faire une conclusion en queue de poisson, parce que sinon je vais dépasser de manière inconsidérée. Oui, je voulais dire que cette perception du geste de la création comme étant ce qui fait venir dans le paraître quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire ce rapport entre l'émergence et le paraître. Ça s'appelle, dans la tradition occidentale, ça s'appelle la démiurgie. C'est-à-dire ce fait de cette capacité de faire apparaître. Or, on trouve ça, par exemple, lorsque Yves Bonnefoy, dans ses remarques sur le dessin, nous dit « Le grand dessin n'identifie pas, il fait apparaître. » Le grand dessin n'identifie pas, il fait apparaître. Ou bien lorsque Malraux, dans la préface de l'Irréel, dit que l'art, ça consiste à exprimer à travers l'apparence ce qui n'appartient pas à l'apparence. Il y a quelque chose qui traverse, quelque chose qui est de l'ordre de cette initiale que vous trouvez justement dans le geste et qui poursuit une fin qui, justement, dans l'art, n'est jamais déterminée, cette fameuse finalité sans fin sur laquelle on pourrait, c'est le cas de le dire, vaticiner sans fin chez Kant. Il y a une finalité, il y a un geste de finalité puisqu'il y a une initiale. Mais en même temps, cette finalité n'a pas de terme, elle n'a pas de but. Elle revient, elle fait retour en quelque sorte sur elle-même. Alors, cette façon qu'a eu l'Occident de penser cette démiurgie, c'est toute la tradition qui va du furor animi des Florentins jusqu'à l'originalité des modernistes. Or, qu'est-ce que c'est que la furor animi ? Le furor animi, puisque le mot latin est masculin. Le furor animi de Marcel Fissin et des Florentins, c'est pas la fureur au sens actuel du terme. C'est pas quelqu'un qui devient fou, qui se met en colère et qui bouscule tout le monde. Le furor animi, c'est l'équivalent de l'enthousiasme. C'est-à-dire le fait d'être soulevé, possédé comme par un dieu. Dans enthousiasme, vous avez théos, dieu. Donc, le furor animi, c'est l'ancêtre du génie. C'est-à-dire le fait d'être saisi par un mouvement qui vous porte à la création, par un geste que vous ne pouvez pas retenir, que vous ne pouvez pas empêcher. Et ça devient le génie au XVIIIe siècle, qui est magnifiquement théorisé par Kant dans la critique de la faculté de juger, paragraphe 46 à 49, mais que vous trouvez avant Kant déjà, sous des formes un peu différentes, mais magnifiques également, chez Diderot. Le génie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage, dit Diderot dans l'entretien sur la poésie dramatique. Ou bien chez Goethe. Mais chez Goethe, c'est pratiquement contemporain de Kant. Chez Goethe, le génie, c'est le démonisme. C'est le fait, c'est l'inspiration. Or, le génie, qu'est-ce que c'est que le génie ? C'est quelque chose, c'est un talent pour les beaux-arts, nous dit Kant. Il n'y a pas de génie scientifique. Ça ne veut pas dire que les scientifiques soient plus bêtes que les artistes, mais ça veut dire que le génie n'a pas de sens en science. Le génie n'a de sens qu'en art. Le génie crée sans règles. Dans le génie, dit encore Kant, c'est la nature qui donne des règles à l'art. Et pour cause, parce que le génie est une nature. D'ailleurs, génie, genius, ça vient de nasco. Nascor, naître, natura, la nature, l'ensemble des choses qui naissent et périssent. Ingenium, l'esprit. Generosus, généreux. C'est tout ça le génie. Au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est la spontanéité à l'état pur. C'est la spontanéité créatrice. Or, la petite fille de cette spontanéité créatrice qu'est le génie, dont l'ancrage, encore une fois, vous l'avez compris, est la nature, c'est l'originalité moderniste. Et là, je me réfère au livre bien connu de Rosalind Krauss sur l'originalité des modernes et autres mythes, l'originalité des modernes et autres mythes modernistes. Peut-être que je fais une erreur sur le titre, peu importe. Donc, l'originalité, qu'est-ce que c'est ? C'est un génie artificiel. Vous retrouvez encore l'idée d'origine, comme par hasard. Mais la référence à la nature est perdue. Il s'agit d'une autre origine. Il s'agit d'une origine artificielle. L'originalité est liée au mythe du novum. L'originalité, c'est le fait d'être nouveau. Et bientôt inédit. On n'a jamais sorti ça encore. Donc, le génie, au sens du 18e, le génie crée sans règle. Le génie est nature. À mon avis, Picasso est plus génial qu'original. Il appartient encore à la démiurgie telle qu'elle est justement pensée par ces théories-là, avec un fort accent de naturalisme. À partir du moment où l'originalité prend le pas sur le génie, les références sont des références artificielles. Par exemple, la grille moderniste. Ce sont des références qui sont fondées sur la capacité de répéter, sur la capacité, en même temps, de proposer des cadres dont on sait qu'ils sont des cadres, c'est-à-dire des artifices, c'est-à-dire des codes. D'une certaine façon, le génie refuse le code. Et pour prendre une distinction de Frédéric Jameson, auteur d'un grand livre sur le postmodernisme, l'originalité est plus ou moins condamnée à un moment donné à tomber dans le pastiche. Parce que précisément, elle refuse le style. Elle refuse ce qui, dans le style, est entre guillemets naturel, c'est-à-dire génial. Le style, c'est une façon de couper, et je dirais même de couper court, hein, étymologiquement c'est ça le style. Le style, c'est ce qui coupe. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de dialogue possible. Et c'est Stendhal, déjà en 1817, dans l'histoire de la peinture en Italie, qui dit que le grand artiste est fondamentalement intolérant. Parce que justement, la forme, la figure, le style, avec quoi il coupe par rapport à toute autre chose, n'est pas négociable. Or, le style est condamné à se transformer en code. Et à partir du moment où vous avez des codes, eh bien, vous arrivez à cannibaliser pratiquement tous les styles du passé, et c'est bien ce qui arrive aujourd'hui avec la postmodernité. Alors je m'arrête là, parce que sinon ce serait une discussion qui n'aurait pas de fin. Merci de votre attention. Une chose, c'est d'être gentil avec ma pauvre oreille, qui est un peu malade, fatiguée.
Donc j'ai bien écouté tout ce que vous disiez. Du coup, pour vous, en fait, est-ce que le style existe encore? Est-ce que le geste existe encore, en fait? Ou est-ce qu'il n'est pas?
C'est une question extrêmement embarrassante, parce que moi, je suis toujours méfiant par rapport à tout discours sur la mort de. De même que, alors qu'on en parle tellement, la mort de l'art, mais la mort de l'art, Hegel n'a jamais parlé de la mort de l'art, puisque c'est à lui qu'on réfère. Hegel a parlé de la dissolution de l'art, Auflösung der Kunst. Or, la dissolution, ça veut dire que l'art devient autre chose que ce qu'il était. Il était, comme disait Malraux, à travers l'apparence, de signifier autre chose que l'apparence, pour le dire comme Hegel, la manifestation sensible de l'idée. Bon, il devient autre chose, c'est-à-dire que toute la partie sensible de l'art est aujourd'hui sur la sellette, ça me paraît indéniable. Mais est-ce la fin de l'art? Non, je ne le crois pas. Donc j'ai du mal à vous répondre, oui, c'est la fin du geste, non. Je ne peux pas penser qu'il y ait la fin du geste. Mais il y a, à travers ce qu'un auteur qui m'est proche a appelé le glaçage du sensible, qui est produit justement par les algorithmes et par les programmes, qui est produit par les appareils. À travers ce glaçage du sensible, il est clair que le geste, dans sa dimension physiologique, charnelle, chaleureuse, hein, glaçage du sensible, c'est pas une image qui est venue là comme ça, il est clair que le geste, dans sa dimension ancienne, est considérablement mis sur la sellette. Peut-il y avoir un geste qui serait intrinsèque, pour ainsi dire, aux pratiques d'appareils et aux pratiques numériques? Personnellement, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout spécialiste de cela. En tout cas, certainement pas un geste comme on l'a entendu jusqu'ici. C'est pour ça qu'on est certainement là dans un moment de mutation absolument considérable. Tout à l'heure, nous parlions de renaissance et de redonner de la réalité et du poids à tout ce qui faisait la physicalité de l'art et de l'artiste. Indéniablement, ça va à l'encontre du mainstream, qui est plutôt, si vous voulez, qui va plutôt vers une... vers un net-art ou vers un art technologique. Moi, je dois vous avouer en tout, alors là, c'est un aveu personnel, ce n'est pas une analyse, que ça ne me touche pas du tout, ça me laisse absolument froid, et je suis très sensible à cette image de glaçage du sensible, justement parce que, dans la mesure où ça passe par des programmes et par des logiciels, toute la dimension médiumnique de l'art, où se trouve-t-elle? Où va-t-elle? Est-ce qu'on la fait pas disparaître? Une des choses dont je n'ai pas parlé, parce que c'est une problématique en soi, tellement c'est important, la question du médium, la question de l'intermédialité qui se pose aujourd'hui de manière cruciale, ou de la transmédialité, c'est une façon absolument... C'est une question plutôt absolument déterminante. Enfin, jusqu'ici, qu'est-ce que c'est que le médium? Les uns ont dit c'est la forme, Greenberg. D'autres ont dit pas du tout c'est la matière. Moi, je crois que c'est les deux. Je serais plus proche de ceux qui pensent que c'est la matière. Mais à condition de penser la matière non pas seulement comme quelque chose de comme stoff, là, comme quelque chose de concret, mais penser la matière comme complexité. Penser la matière comme toutes les conditions permettant un type de création. Comme il y a un appareil de pêche. D'ailleurs, dans un texte sur la photographie de 1931, qui est la petite histoire de la photographie, Walter Benjamin parle de l'apparatur Leistungen, c'est-à-dire de tout l'appareillage qui est lié à la pratique. Bon, tout art a un appareillage, même l'art le plus simple. C'est ça le médium. Mais le médium, c'est à la fois la matière et la forme. C'est le conditionnement d'une certaine inspiration. Ce qu'on dit en peinture, on ne le dirait pas en sculpture. Parce que si on pouvait faire ça, on serait dans l'illustration, on ne serait pas dans la création. Il y a création lorsqu'il y a indissociabilité du motif et du médium, pour le dire. Or, aujourd'hui, on est dans l'intermédialité beaucoup plus que dans le médium. Bien entendu, il y a encore de la peinture. Bien entendu, il y a encore de la sculpture. Mais ce qui prime, il faut bien le dire, c'est tout de même la transmédialité ou l'intermédialité. C'est-à-dire, là encore, un refus d'une certaine façon, un déni, De toutes les conditions à la fois matériologiques et presque viscérales ou affectives dans lesquelles la création artistique avait cours. Autrement dit, quel est l'affect de l'art aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe dans un très grand nombre d'œuvres contemporaines qui ont pignon sur rue, a fortiori celles qui trônent sur la scène people de l'art internationalisé, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est froid. À quel point c'est calculé, à quel point il n'y a pas d'affectif là-dedans, il y a pas de... Moi, je ne suis pas touché du tout. Jeff Koons, ça me touche absolument pas. Damien Hirst non plus. Vous voyez, tout ça... Voilà.
J'ai une deuxième question. Est-ce que du coup, on n'est pas dans une société qui a tendance à tuer le geste pour pouvoir mieux contrôler l'individu? Et du coup, d'une certaine manière aussi, est-ce que ce ne serait pas une certaine révolution que de revendiquer le geste, enfin, en tant qu'artiste, et ne pas le reproduire comme, justement, du coup, une sorte de transmédialité d'un médium pour apparaître ou pour exister?
Oui, moi, mais je vais vous dire, moi, je crois pas au revivescence, à l'identique. Tout à l'heure, je parlais des rythmes d'une époque, de sa danse propre, de son style propre, de son rythme propre. Je crois qu'on ne peut pas revenir au rythme du passé, de toute façon. C'est toujours malsain. Il y a une emphase du grand art qui n'est plus en phase avec notre époque. Et finalement, on tomberait dans le ridicule. Ce serait vraiment ce que disait Marx, vous savez, des choses, des événements politiques qui se présentent une première fois comme tragédie et une deuxième fois comme farce ou comme comédie. Si on faisait du grand art aujourd'hui, on serait dans la farce et dans la comédie, on serait dans le ridicule. Donc c'est impossible. Il faut qu'un art soit en phase avec son époque. Il faut qu'il soit absolument moderne. Il faut qu'il ait réussi à détecter la qualité de présent qui est celle de notre époque. Sa qualité à lui, mais pas d'une autre époque. Donc on ne reviendra pas en arrière. Il ne faut pas chercher à reconstituer le passé. Il faut trouver autre chose du même ordre, si possible du même ordre, mais qui soit contemporain. Ce que déjà Stendhal et Baudelaire appelaient au XIXe siècle le beau moderne. Hein. Baudelaire disant, c'est la grande beauté, le grand art, l'idéal de l'art, tout ça c'est passé. Ok, on en tient compte, c'est fini, c'est passé. Mais c'est à nous d'inventer un beau moderne, de l'inventer. C'est à nous peut-être d'inventer un nouveau geste, une nouvelle gestualité, une nouvelle affectivité, parce que une des choses, personnellement, je dis des choses très simples là, hein, une des choses qui me, desquelles je suis absolument convaincu, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'art sans affectivité, donc sans sensorialité. Alors comment rendre compatible la dimension sensorielle et affective de l'art avec la dimension des appareils ? On peut pas aller contre notre époque. Nous vivons dans un monde d'appareils. Nous vivons dans le monde numérique. Et après tout, il nous rend bien service, on a bien des occasions. Donc on ne peut pas être technophobe, ce serait ridicule. Mais il faut pas non plus se laisser avoir par n'importe quelle marchandise mal ficelée qui, par la marchandisation et la médiatisation éhontée, font en quelque sorte certaines exagérations, je ne sais pas comment appeler ça, ou certains produits des incontournables de l'art contemporain. Là, il ne faut pas se laisser avoir. Mais regardez, pourquoi, moi j'avoue, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qu'il faut me poser. Comment se fait-il que le kitsch ait été considéré dans les années 30-40 comme étant l'aberration par excellence ? Comme étant ce qu'il faut éviter à tout prix. Puisque le kitsch, à la différence de l'avant-garde, là je me réfère à l'article célèbre de Greenberg sur kitsch et avant-garde, le kitsch, à la différence de l'avant-garde, c'est ce qui est demandé par les masses, par la petite bourgeoisie. L'avant-garde, c'est ce qui est offert, c'est l'offre. Et l'artiste dit, voilà, pour moi c'est ça, ça ne peut pas être autre chose. Vous n'en voulez pas, allez vous faire voir. C'est la loi de l'offre, l'avant-garde. Le kitsch, c'est la loi de la demande. Or, le kitsch, qui était si mal jugé par l'avant-garde, au nom de l'offre, est devenu, dans l'art internationalisé, presque un inévitable. C'est-à-dire le clin d'œil qui fait que vous allez avoir un public qui va démesurément s'agrandir. Mais vous savez, ça existe partout. Nous en parlions hier avec mes amis. En philo et en littérature, c'est pareil, mais surtout en philo. En philo, qu'est-ce qui se vend en philo ? Michel Onfray. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Où on est descendu ? Donc, voilà, mais ça se vend. Et c'est demandé par tout le monde. C'est demandé par tout le monde. Les artistes, les ingénieurs, les commerçants, les notaires, ils demandent tous du Michel Onfray. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc, voilà. Comment ? Ah, c'est pas qu'un phénomène de mode, parce que... Non, c'est pas qu'un phénomène de mode. Vous savez, ça a une conséquence invraisemblable, enfin, invraisemblable, plutôt très vraisemblable, qui est celle de ce qu'un auteur belge, d'ailleurs, professeur à l'Université de Liège, qui s'appelle Pascal Durand, dans un petit livre publié chez Actes Sud, a appelé la censure invisible. Qu'est-ce que c'est que la censure invisible ? Il n'y a pas de censure, on vous dit pas, on n'est pas en Union soviétique, on n'est pas en Chine. Il y a une censure invisible. Elle consiste en quoi ? Elle consiste dans le fait qu'on ne parle pas de vous, que finalement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et dans la mesure où vous avez, où certains prennent toute la place, parce qu'ils sont hyper médiatisés, parce qu'ils correspondent absolument à cette demande massive, qui est justement le kitsch, le reste n'a plus le droit de citer. Comment ?
C'est ce qu'on vit au niveau de l'information quotidienne. C'est à nous d'aller chercher les informations.
Ah, c'est à nous, mais...
Ce qu'on nous sert dans les journaux sont les relais de médias, comme on nous sert partout, via Reuters, etc., les mêmes informations. C'est la même chose dans l'art, c'est la même chose dans tous les domaines.
Donc moi, je vous trouve bien optimiste.
Il y a trop de production, c'est-à-dire tout le monde le produit aujourd'hui, que ce soit les philosophes, les artistes. Donc il y a l'acte de résistance, ce serait justement de ne pas produire. Il n'y a plus de place, on est sursaturé. Donc on est sursaturé d'informations et en même temps on a une réduction de l'attention de toutes ces informations qu'on reçoit en permanence. Donc on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à se concentrer, on n'est plus dans la lenteur des choses, on n'est plus dans la profondeur des choses, on est dans l'ego de la compétition et dans le consumérisme, avec 280 fois l'art contemporain, et donc moi j'ai peur pour nos cerveaux, les cerveaux futurs, de savoir comment eux vont gérer cette situation de difficulté d'attention, c'est quand même un problème grave.
Oui, c'est sûr.
La moyenne de l'attention, c'est de l'ordre de 10 minutes. 10 minutes, je crois que c'est ça. De 10 minutes, il faut. Et j'étais éditrice, et je lisais beaucoup de livres. Et aujourd'hui, j'avoue, je lis beaucoup moins. Je suis. Donc, c'est comment on se prémunit, vous qui êtes philosophe, comment on se prémunit de cette espèce d'injonction,
d'être
ici, là.
La solitude.
La solitude, ouais.
Pour moi, c'est ça. Il faut arriver à être seul. Et bien, mais ça, c'est un travail personnel.
Donc vous êtes artiste?
Oui.
Je m'en doutais un peu.
Je pense, mais en fait, mais... tous êtes artistes, c'est ça le problème de nous dire aujourd'hui. C'est que sur l'ordinateur, le téléphone, l'iPhone, tout le monde s'instaure.
Ah, vous n'avez pas Instagram,
oui.
Vous n'avez pas
et j'insiste, tout le monde s'instaure philosophe. Tout le monde s'instaure philosophe aussi.
Mais bon,
je
suis architecte.
Oui, oui.
Sans les bases.
Ah, bah bien sûr. Bien sûr.
Il n'y a pas de substrat.
Non.
Il manque partout le substrat, que ce soit dans les galeries, dans les artistes. Moi, je vois un paupérisme généralisé. Tout le monde a la même chose. Et en même temps, il y a beaucoup de pauvreté.
Oui, mais où je vous trouve optimiste, c'est quand vous pensez que les médias peuvent soigner les médias.
Non.
Moi, je suis très.
Nous,
comment ? Oui, mais l'information.
Prendre du recul,
mais c'est bien joli.
Et résister. Ouais. Prendre du recul vis-à-vis de ce qui nous est imposé, parce que c'est une forme de communisme imposé, et prendre du recul et regarder bien les choses, ce qui ne se fait pas malheureusement, parce qu'il y a la masse.
Alors, une seconde, je passe mon premier commentaire, parce que déjà, elle est riche là, sur ce sujet. Par contre, il y a une chose dont vous avez beaucoup parlé, je suis d'accord aussi, c'est cette disparition de l'affect. Par contre, pour moi, il y a aussi, vous en avez moins parlé, la disparition du sens. Moi, je dis « there is no more in thinking », c'est-à-dire qu'on ne pense plus.
On ne pense plus ?
Oui. Vous avez beaucoup insisté sur la règle. D'ailleurs, je pense que les deux sont liés, mais je demande pas de réponse. Je jette ça dans... Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'idée originale. On pousse la dernière idée, on remixe, on reprocesse. On...
Ah d'accord, en ce sens, oui. Oui,
ben. Mais sinon, on ne pense plus, on ne crée plus. On reprocesse, on remixe, on pousse la dernière idée qu'on a trouvée sur Instagram, sur les médias. Voilà. Mais bon, je pense que c'est lié aussi, parce qu'il y a un lien entre affect et pensée, entre sens et affect.
Oui, mais c'est lié à beaucoup de choses, y compris à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire au fait qu'il y a moins de lecteurs parce qu'il y a plus de pseudo-producteurs. C'est ça le problème, c'est que je veux dire la notion de le respect en quelque sorte des ordres, c'est ça qui n'existe plus. Aujourd'hui, n'importe qui se dit au fond, moi je peux produire mon texte, je vais l'envoyer à un éditeur, puis on va bien voir. Auparavant, il y avait quand même une sorte de d'aidos, de pudeur, vous voyez. Il y avait une sorte de vergogne avant.
La dissolution, hein, des valeurs, des structures.
Voilà. Moi, les gens que j'ai le plus admirés dans ma vie jusqu'ici, ce sont des grands lecteurs. Des gens qui auraient été capables d'écrire mille fois mieux que tellement d'écrivains patentés, mais qui n'ont jamais eu la... qui se sont toujours dit, non, moi, je suis un lecteur. Et qui ont voulu, qui ont tenu à en rester là, par respect pour l'écriture. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est totalement passé. Je veux dire que nous sommes quand même, effectivement, de ce point de vue-là, dans une ère de grand dévergondage.